La bonne nouvelle, c'est que notre série sur l'Exode, le deuxième livre de la Bible, se termine. C'est la fin. Le voyage se termine. Le voyage à travers l'Exode, ça fait la 13e prédication. Et on a bien voyagé avec Moïse. On a commencé en Égypte, hein, et avec sa naissance, avec son panier, grâce aux sages-femmes. Et puis sa fuite dans le désert de Madian où il rencontre son futur beau-père, Jéthro, et son épouse, enfin pas son épouse, et sa future épouse également. Et puis après le buisson ardent, la révélation de Yahvé, et puis après retour en Égypte, sa confrontation avec le pharaon qui s'entête, et puis les 10 plaies d'Égypte. Et puis la Pâque, et enfin la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, grand moment de cinéma. Vous avez la petite image là en bas à droite. On traverse la mer Rouge, et puis après le don de la loi, et on termine aujourd'hui le voyage. La sortie est proche. Exode, ça veut dire sortie, exit. Et puis mauvaise nouvelle, l'histoire se termine mal. Vous vous souvenez du groupe les Rita Mitsuko? Les histoires d'amour se terminent, finissent toujours mal, en général. Alors il y a un petit moment. L'Exode, une histoire qui termine peut-être mal. Et effectivement, on arrive au chapitre 32 du livre de l'Exode et on est un peu surpris, voire même un peu déçu. Mais avant de lire le passage en question, vous l'avez peut-être déjà deviné, mais je rappelle que la question tout au long de cette deuxième partie du livre de l'Exode est celui de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Avec une question subsidiaire. Dieu peut-il être présent au milieu d'un peuple qui lui est rebelle, qui n'est pas franchement aimable, qui n'est pas vraiment satisfaisant? Dieu peut-il habiter au milieu de son peuple qui a un cou raide, rétif? Dieu peut-il vraiment habiter dans nos vies? En voilà une question qu'elle est bonne. On passe au passage. Nous sommes dans Exode 32, quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, on appelle ça des boucles d'oreilles, et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte !» Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il proclama, « Demain il y aura une fête en faveur de l'Éternel !» Le lendemain, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. » Et il semble bien que ce soit de l'or. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant « Israël, voici les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte !» L'Éternel ajouta « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai, mais je ferai de toi un autre grand peuple. » Vous l'avez lu, c'est l'épisode catastrophique du veau d'or. Alors j'ai donné comme titre de cette prédication « Patatras ». Le veau d'or. Patatras, c'est une onomatopée, ou un onomatopée, je ne sais plus, une onomatopée qui désigne la chute. Et avec le veau d'or, effectivement, on tombe de haut. Eh bien oui, on a le peuple d'Israël sous le leadership éclairé de Moïse qui vient de faire alliance avec Dieu. qui reçoit les paroles, les 10 paroles ou les 10 commandements. Ils sont dans le massif du Sinaï, ils sont devant la montagne d'Horeb. Et d'ailleurs, Moïse y est encore sur la montagne à la rencontre du Dieu. Ils ont reçu les 10 commandements, comme je leur disais, mais pour donner un cadre à leur liberté nouvellement acquise. Ils sont sortis d'Égypte, de la servitude d'Égypte, pour être libres devant Dieu, pour vivre son alliance, pour vivre de son amour et de sa bienveillance. Et patatras, le veau d'or, on tombe de haut, de vachement haut. Alors je ne sais pas si ce moment du veau d'or, j'appelle à vos souvenirs, mais est repris dans les 10 commandements avec Charlton Heston. Je ne sais pas comment ils en parlent. J'ai pas revu le film parce qu'il est assez long. Mais dans ce récit du veau d'or du chapitre 2, je vois 3 scènes avec 3 acteurs principaux. 3 scènes cinématographiques. Et le premier a à voir avec Aaron. Je l'ai nommé la compromission d'Aaron. Parce que le rôle d'Aaron, le frère de Moïse, hein, le porte-parole de Moïse, parce que Moïse était un petit peu embarrassé de la langue, il a un rôle absolument ambigu dans l'histoire. Alors certains le défendent. J'ai entendu des gens aussi qui défendent Judas, qui trouvent à Judas des circonstances atténuantes. D'autres qui trouvent à Aaron des circonstances atténuantes en disant qu'il a voulu écouter le peuple, aller dans le sens du peuple, que fondamentalement, c'est pas une mauvaise chose. D'autres le défoncent complètement, Aaron, dans ce que j'ai lu. Et nous disent qu'en tant que leader, il aurait dû s'opposer au projet qu'il a fait, montre d'une faiblesse incroyable. Et je pense que le récit lui-même nous dit que Aaron était quand même un petit peu responsable, voire même, Yvonne, voire même coupable. À la fin, au verset 21, c'est pas tout à fait la fin, il y a Moïse qui lui dit « Que t'a donc fait ce peuple pour que tu l'aies entraîné à se rendre coupable d'un si grand péché ?» Il les a, Aaron les a entraînés. Il a été la courroie d'entraînement pour aller construire ce veau d'or. Il est coupable dans la recherche d'un compromis. Et compromis, ça peut être assez positif. Mais un compromis qui va jusque dans la compromission, et là, ça devient tout à fait négatif. Alors, le peuple attend le retour de Moïse. Et on sait que l'attente et l'absence sont parfois difficiles à supporter, insupportables pour certaines personnes. Ça fait pourtant que 40 jours que Moïse est parti. Ce n'est pas non plus la mer rouge à boire. Peut-être sont-ils, ce peuple d'Israël, un petit peu comme tout le monde, des adeptes de la gratification immédiate. Comme disait Freddie Mercury du groupe Queen, on veut tout et tout de suite. Et ils veulent du concret et de l'immédiat et du concret. Et Aaron va suivre les désirs du peuple et il va le leur donner de l'immédiat et du concret. Un peu de démagogie et un peu de populisme, c'est toujours bon à prendre, à court terme en tout cas. Et il va prendre les boucles d'oreilles de tout le monde et en or et il va les faire fondre et un veau d'or va sortir. Un veau ou un taureau ou un taurillon, rien n'indique que c'est un jeune animal, mais qui est le symbole dans beaucoup de cultures païennes de l'époque de puissance et de fécondité. Le drapeau du Béarn, il y a 2 taureaux. Pour les religions païennes de l'époque, le taureau symbole de puissance et de fécondité, rien à voir avec l'agneau de Pâques. Et les Israélites, dans une grande majorité, vont déclarer une contre-vérité. Alors tu peux revenir en arrière. Une contre-vérité incroyable. Ils vont dire devant ce veau d'or, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Incroyable. Ce veau, ce taureau, ce taurillon n'a absolument rien fait pour les faire sortir du pays d'Égypte. Il y a là une réécriture de l'histoire. Il y a là un narratif complètement inventé et fabriqué de toutes pièces. Alors, Aaron, quand même, quand il entend ça, il est certainement un peu gêné du résultat des courses. Voici le veau d'or, voici tes dieux ou ton dieu qui t'ont fait sortir d'Égypte, en désignant le veau d'or, dit le peuple. Et il va un petit peu calmer le jeu. Et c'est là le compromis. Et c'est là la compromission. Il va construire un autel devant le veau d'or, l'autel, et il va organiser une fête en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de Yahvé, devant le veau d'or. Ça, c'est du compromis. Et là, on peut mettre la diapo. On peut parler de syncrétisme, c'est-à-dire un mélange des genres, un peu de Yahvé, un peu de veau d'or, un peu de paganisme, un peu de yavisme. On prend un peu de ceci et cela, et tant pis pour la cohérence, et tant pis pour l'éthique. Aaron va mettre en place une sorte de culte alternatif. Pop, pop. On alterne. On cloche, dit la Bible, je ne sais plus où, on cloche des deux pieds. Que fais-tu, Aaron? Vous vous souvenez, la deuxième prédication, c'est « Mais qu'est-ce que tu fais, Moïse ?» quand il a tué l'Hébreu. Et là, on a envie de dire « Mais qu'est-ce que tu fiches, Aaron ?» Eh bien, ce qu'il fait, tout simplement, c'est de l'idolâtrie. Alors, on s'est posé la question de savoir si le peuple et Aaron cherchaient à remplacer Dieu ou à représenter Dieu. Eh bien, comme pour le capitaine ou le commandant, je ne sais plus, un peu des deux. Remplacer et représenter Dieu. Et de toute façon, soit l'un, soit l'autre, ils désobéissent au premier et au deuxième commandement. Le premier commandement d'Exode 20 qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et le deuxième commandement « Tu ne te feras pas de représentation de Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. » Et Yvonne, premier et deuxième commandement. Ils sont à l'encontre de ces deux commandements qu'ils viennent de recevoir, qui sont le contrat d'alliance. Et on se demande d'ailleurs comment ont-ils fait pour si vite oublier, pour réécrire comme ça l'histoire. Comment ont-ils pu être bêtes à ce point pour se faire un veau d'or et penser que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Et comme disait ma grand-mère, bête à manger du foin, comme les bovidés. Alors, le récit indique une chose intéressante. Yvonne ? Ouais. C'est que le veau d'or n'est pas sorti par magie. Il a été travaillé au burin, fabriqué, usiné. C'est du travail humain, tristement humain. Et la Bible va mettre l'accent sur ce côté humain, artisanal de l'idole. Et par exemple, le prophète Ésaïe va dire « Toutes ces idoles, c'est que du néant. » Et j'aime bien son image, l'artisan ferronnier qui fabrique l'idole appointe son burin, mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie. Et qu'est-ce que l'idole qu'il vient de fabriquer va lui donner comme énergie? Néant, nada, niente, nothing, nichts, néerlandais. Bon bref, rien. L'idole que tu fabriques, que tu t'échignes à fabriquer, ne va rien t'apporter quand tu as besoin d'énergie et d'énergie intérieure. Inefficacité, impuissance de l'idole. Et le prophète Osée dit, rendez-vous compte des idoles, c'est un artisan qui les a fabriquées. Ça n'a rien de transcendant. Et puis, et j'aime beaucoup aussi le psalmiste qui dit, et je vous lis peut-être la totalité du passage, si je la retrouve, elle est trop trop belle. À Horeb, le psalmiste rappelle l'événement du veau d'or. À Horeb, ils ont façonné un veau et ils se sont prosternés devant une idole en métal fondu. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf qui broute l'herbe. Alors on aime les animaux, mais un bœuf qui broute l'herbe, comme idole, qui te fait sortir d'Égypte, c'est incroyable. C'est absurde. Ce n'est que néant. Ça n'a rien à voir avec le Yahvé. Celui qui suit. Je suis celui qui suit, se déclare, se révèle Dieu à Moïse dans le buisson ardent, à Horeb déjà. Les idoles ne sont que néant, elles n'ont pas d'existence, ni d'efficacité, ni rien, elles ne te mènent nulle part. Mais moi, je suis Yahvé, celui qui suit, qui est le fondement de ton être et de ton existence. Et mince, tu vas choisir le veau d'or. C'est incroyable, d'absurdité, d'oubli. Ce manque de perspective, ce manque d'élévation, ce manque de transcendance, ce manque d'éternité. Mais malgré tout, les hommes et les femmes de l'époque, et peut-être encore d'aujourd'hui, sont attirés par ces idoles préfabriquées. Quelqu'un disait très justement, le désir des choses créées éclipse notre désir du Dieu qui les a créées. Alors dans la série « L'idolâtrie vient de chez nous » et autre diapo, enfin je crois, et voilà, c'est un pasteur qui me racontait que pendant des années, le dimanche matin, quand il allait à l'église pour célébrer le culte, il croisait toujours quelqu'un qui était prosterné devant sa voiture le long du trajet. Tous les dimanches matin, pendant plusieurs années, prosterné devant sa voiture, il se disait bon. Et il regarde de plus près et il s'aperçoit que cette personne est en train de nettoyer les jantes de sa voiture avec sa brosse à dents. Tous les dimanches, avec sa brosse à dents. Et prosterné devant son automobile avec sa brosse à dents, comme un objet sacré, la brosse à dents, bien sûr. Alors je suis d'accord que les jantes de les voitures ne sont pas faciles à nettoyer et que la brosse à dents est certainement une bonne idée. Mais quand même, tous les dimanches, ça aurait été le lundi, ça aurait été la même chose, hein, mais prosterné devant sa voiture. C'est sûr que le veau d'or n'a peut-être pas disparu. Il y a un opéra, Faust, mais de Gounod, pas de Dante, qui s'intitule « Le veau d'or tient toujours debout ». Il est toujours là. Je me suis laissé dire que dans le domaine des finances, quand quelqu'un que réussissait bien financièrement, il recevait ou on lui donnait ou on lui offrait une petite statuette, une vache en or. Confirme, je me suis laissé dire ça. Aujourd'hui encore, symbole de la réussite financière. Alors pour les idoles d'aujourd'hui, on parle d'une triade, hein, comme la mafia japonaise ou chinoise, la triade d'idoles aujourd'hui, sexe, argent, pouvoir. Et l'actualité nous dit que ces idoles sont toujours d'actualité, que le veau d'or tient toujours debout. Et l'affaire Weinstein, il y a un mélange des gens. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Dans notre veau d'or, le sexe est présent. Le petit verbe, quand ils disent ils offrirent des holocaustes, ils se réjouirent et ils se levèrent pour se divertir. Se divertir, le terme hébreu parle, indique une bouche sexuelle. Ils se lèvent pour une orgie. L'idolâtrie a tous les dérèglements. Mais il y a d'autres idoles, mais il y en aurait d'autres. Alors, j'ai sexe, pouvoir, argent, mais j'en ai quelques-unes peut-être qui pourraient vous faire réagir. Le travail peut être idolâtré. On peut ne vivre que pour lui. On parle des alcooliques du travail. Dieu m'en préserve. Le sport peut être une idole. On parle du culte du corps, du culte de la performance. Je me souviens quand j'avais 19 ans, je trouvais que mes pectoraux, je faisais beaucoup de natation, mais mes pectoraux étaient très plats, larges. C'était bien quand même. Mais j'aurais voulu plus de volume, un peu plus globuleux, là, comme on voit. Alors, avec mon beau-frère, qui manquait aussi de pectoraux, on est allé dans une salle de culturisme, où on cultive le corps avec, à l'époque, on appelait ça du bodybuilding. On construit son corps. Et, bon, bref. Et c'était une salle pleine de vitres, enfin de glace. De miroirs tout autour, et il y avait des grands costauds là. Pour les pectoraux, c'est ça, c'est ce mouvement, ping ping. Et nous, on était un peu maigrichons quand même à côté, hein. Mais moi, j'ai fait que des pectoraux pendant une heure et demie, des pectoraux. C'est ça, les pectoraux. Et j'ai pas vu la différence après la première séance, mais j'ai compris ma douleur. Je pouvais plus conduire ma petite deux chevaux. J'avais trop mal. L'idolâtrie est désastreuse. La culture du corps, la culture de la performance. On pourrait parler aussi de l'idolâtrie de la culture. Littérature, cinéma, musique. J'ai connu des gens qui ne parlaient que de culture. En savoir le plus possible pour pouvoir s'élever au-dessus de la plèbe, de l'ignorance de la plèbe. Les réseaux sociaux, évidemment, hein, l'importance de se sentir en contact, en réseau, socialement, et on passe son temps devant les écrans verts, comme on dit. La famille peut être une idole. Oh, une idole ? Mais oui. Quand on fonde tout son espoir en elle, qui pourra être vite déçu aussi, mais quand il n'y a que ça qui compte dans la vie, la famille peut être une idole. Alors, comprenez-moi, pas de malentendu entre nous, la famille est une bonne chose et il faut en prendre soin. L'exercice physique n'est pas inutile. Le travail, c'est la santé. Les relations sont nécessaires. La culture nous ouvre l'esprit et c'est une excellente. Cela ne peut pas être des absolus, des idoles sur lesquelles ou devant lesquelles on se prosterne. La question est de savoir l'importance que ces choses ont dans ma vie, la place qu'elles prennent et qui elles rendent. Il y a un bon test, c'est de regarder un petit peu son agenda. Tout est sur... Enfin, moi, j'ai encore un agenda papier. Et toutes vos activités sont tournées vers la même chose. Un bon travail de regarder aussi vos relevés bancaires. Où va tout l'argent ? Une autre chose, c'est de savoir aussi, peut-être demander à quelqu'un, quel est mon sujet de conversation, pas préféré, mais qui me prend le plus de conversation. De quoi je parle tout le temps ? Peut-être des petits indicateurs de mon idolâtrie à moi. Il y a Blaise Pascal, philosophe, mathématicien. On parle encore du code Pascal. Binaire. C'est pas le code, je sais plus ce que c'est, mais si, c'est le code. Et 17e siècle, mais aussi un théologien qui parlait du divertissement. Et à l'époque... au XVIIe siècle, on se divertissait beaucoup, des jeux de hasard, des jeux de cartes, des gens qui perdaient tout leur argent à ces jeux et qui perdaient aussi toute leur vie. Et Blaise Pascal parlait du divertissement pour se divertir, mais aussi, et il jouait un petit peu sur les mots, du divertissement pour faire diversion. Qui divertissement, idolâtrie du loisir, mais qui nous fait diversion par rapport à ce que Blaise Pascal pensait être le plus important pour nous, pour lui et pour l'humanité, la présence du Dieu éternel, du Dieu d'amour éternel. Il les détournait, les idoles faisaient diversion de ce qui était vraiment important, le divertissement qui fait diversion. Bête, Blaise Pascal. Vous savez d'ailleurs que notre mère à tous, David Lisnard est fan de Blaise Pascal, ce qui pourrait être un point commun. Quelle que soit l'idole, on est dans le même risque de qu'il fasse une version qui nous détourne de Dieu et de rentrer dans un esclavage que nous venons de quitter. Au verset 25, le récit précise que le peuple était devenu déchaîné, incontrôlable. Ça, c'est la conséquence de l'idolâtrie. Vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, de perdre un peu le contrôle, de faire, comme le dit Paul dans Romains 7, le mal que je ne voulais pas faire, et de ne pas pouvoir faire le bien que j'aurais voulu faire, complètement pris dans mon truc, dans mon trip. Plus la liberté de choisir et de vivre cette liberté devant Dieu. Non, je suis pris par cette idole. Et il y a Pierre qui nous dit dans la deuxième de Pierre, chaque homme, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, de ce qui a pris le contrôle. Mais il y a un deuxième moment dans ce récit du veau d'or, et ça va être plus court que le premier, n'ayez pas trop peur, et il est lié à Moïse, l'intercession de Moïse. Moïse va intercéder. Alors il va d'abord intercéder, mais d'abord ça sera la colère, avec cette belle image. Et on va lire ensemble la colère. Quand Moïse s'en retourna et redescendit de la montagne, tenant en main les deux tablettes de l'acte de l'Alliance, elles étaient gravées des deux côtés sur leurs deux faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tablettes. Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les cœurs dedans, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Et puis un peu plus loin, il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau. Puis il fit boire cette eau aux Israélites. Ensuite, il demanda à Aaron, « Que t'as donc fait ce peuple pour que tu l'aies entraîné à se rendre pas dans si grand péché ?» Moïse avait déjà été prévenu alors qu'il était encore sur le mont Horeb par Dieu. Mais quand il descend, qu'il voit les bruits de la pique, une colère mémorable, et il brise le symbole de l'alliance qu'il avait dans les mains. Il brise les deux tables de l'alliance. Et ce faisant, il partage complètement la colère de Dieu par rapport au mal. Il est dans une colère noire qui ressemble à celle de Jésus, vous vous souvenez, dans le temple, où il voit tous les marchands du temple et il renverse les tables. Une belle colère, une sainte colère. C'est-à-dire une colère juste dans le sens où elle rétablit la justice, où elle rétablit la conformité, où elle rétablit, non pas l'ordre, mais la vérité. Et puis, il va... Bon, je passe, parce que j'ai regardé ma montre et le temps passe. Et c'est important de parler de la colère de Moïse, parce qu'on n'est pas dans le compromis ou dans l'arrangement ou dans la compromission. Bah, écoutez, le veau d'or, il n'y a pas de mal, hein, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Non, il y a mal. Pardon. Il y a péché. Il y a adultère. Et tout l'Ancien Testament parlait de l'idolâtrie étant l'adultère. Pourquoi ? Parce qu'il y a rupture d'alliance. Qu'il y a tromperie. Il y a mal. Il y a péché. Mais Moïse va intercéder pour son peuple et il va le faire plutôt deux fois qu'une même, à deux moments. Et on va lire ensemble. La colère d'abord, la solidarité ensuite, et on va lire ensemble cette intercession de Moïse. Alors Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié en disant « Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire disparaître de la terre ? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. » Suivant. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant « Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » Alors, l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Et donc, la dia suivante, et donc Moïse intercède pour le peuple. Il est en colère, mais il est tellement solidaire. Alors qu'il les connaît bien, ce peuple d'Israël, il a failli être lynché par eux, avec le problème d'eau et les murmures. Mais il est vraiment dans la définition de l'intercession, c'est-à-dire se déplacer entre, aller d'une personne à l'autre. Et Moïse intercède. Il est en colère, mais il intercède. Et il se sent solidaire de ce peuple, et il le fait magnifiquement. Il appelle Dieu à se souvenir d'Abraham et des promesses qu'il a faites à son peuple, à Abraham déjà, et à son peuple. Il met Dieu face à ses promesses, comme Abraham l'avait fait pour la question de Sodome. Hein? Est-ce qu'il y a, s'il y a 50 justes, tu préserveras Sodome? Et Dieu dit oui. Et il le met devant sa justice, tu vas pas faire périr des justes avec des injustes, c'est pas possible. Et même s'il y en avait qu'un, oui, je préserverai Sodome. Et Abraham, comme Moïse, intercède et met Dieu devant ce qu'il est. Un Dieu bienveillant, un Dieu fidèle à ses promesses, un Dieu juste. Et ils le font avec beaucoup de respect et d'humilité, mais aussi avec une certaine audace. Et voilà la deuxième intercession. Écoutez ça, c'est magnifique. Le lendemain, Moïse, c'est tout à la fin. Moïse dit au peuple, vous vous êtes rendu coupable d'un grand péché. Il n'y a pas à le nier. Maintenant, je vais remonter auprès de l'Éternel. Je vais intercéder, faire le va-et-vient. Peut-être obtiendrai-je un moyen d'expiation pour votre péché. Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit, hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un grand péché. Il s'est fait un dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Moi, si, je pense pas que Moïse fut un Marseillais. Il n'est pas en train de... Oh, oh, sinon, il n'est pas dans l'exagération, mais dans la sensibilité. Il ne veut pas être tout seul inscrit dans le livre de vie de Dieu. Si le peuple n'est pas avec lui, inscrit dans ce livre de vie, ça ne l'intéresse pas. Il est prêt à être effacé du livre de vie. Il est prêt à mourir pour son peuple. Et ça nous fait penser... 1500 ans plus tard, au Christ, médiateur d'une alliance nouvelle, intercesseur. Le troisième point, et je vais accélérer, je ne voudrais pas accélérer, mais je suis obligé, c'est le pardon de Dieu. Alors, l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. On est un peu gêné avec le verbe « renoncer ». Dans d'autres traductions, c'est marqué « il se repentit ». Il se repent, il regrette le mal qu'il avait menacé. Et on se dit « mais Dieu est souverain, Dieu décide, et ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il advient ». Mais Dieu n'inscrit pas notre destinée dans un plan implacable. Nos prières comptent. Et Dieu, dans sa souveraineté, intègre nos prières pour accomplir sa volonté. Nos prières comptent, nous ne sommes pas dans le fatalisme où Dieu écrit le destin de tous de manière implacable, mais avec le Dieu de l'Alliance qui écrit l'histoire avec nous, les hommes et les femmes de bonne volonté. Et Dieu... Et on voit plus loin que l'on peut parler de... Non, va conduire le peuple là où je t'ai dit, mon ange marchera devant toi. On revient. Pas tout à fait à la case départ, mais on continue le voyage. Et puis, plus loin, au chapitre 4, il redit son alliance en disant, je suis un passion à se mettre en riche en amour et en fidélité. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. La justice de Dieu est là. Mais il... avec l'apothéose au chapitre 40, la nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Remplit le tabernacle. Une histoire qui ne finit pas si mal malgré tout. Elle remplit le tabernacle. La présence de Dieu, la nuée, c'est la présence de Dieu, la Shekinah, la gloire de Dieu qui remplit le tabernacle. Dieu est présent au milieu de son peuple. De traverse, malgré les détours, malgré les fautes, malgré nos idolâtries. J'aime cette expression qui dit « Dieu trace des lignes droites avec nos lignes courbes ». Parfois très courbes, parfois très détournées. Et en ce qui concerne le Christ, je voulais, et ça termine vraiment bien, vraiment très bien avec le Christ qui nous dit dans l'Apocalypse, le vainqueur, toi, moi, portera ainsi des vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de mes anges. Vous vous souvenez le livre de vie de Moïse ? Je n'effacerai jamais ton nom, je te reconnaîtrai devant Dieu comme faisant partie de mon peuple, dit le Christ. Le médiateur. Et quelques paroles pour la route. Ouais, on passe celle-là, même si elle est très belle. Quelques repères pour la route, comme on l'a fait depuis le début. Premièrement, si tu avais une idole, je ne sais pas, quelle pourrait-elle être ? Quel est le risque de détournement ou de diversion dans ta vie ? Deuxième, reste vigilant. Surtout dans les moments forts de ta vie. Parce que c'était un moment fort pour le peuple d'Israël. Ça plane pour moi. Ouais. Parce que c'est pas là où tu risques, où je risque de tomber. Autre point. Redis-toi ce qui compte vraiment. Pas dans ta vie, mais dans la vie. Dans la vie que Dieu veut te donner. Toujours ces disciples qui disent, qui sont prêts à abandonner le Seigneur et Jésus et Pierre qui dit, mais vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, la vie la vraie. Souviens-toi de l'action de Dieu dans l'histoire du monde et dans ton histoire. Ne sois pas un peuple à la nuque raide qui ne peut pas se retourner ou qui invente un narratif qui lui convient. Et regarde en avant. Tes perspectives qui s'ouvrent. Et puis, dernier, vis pleinement ton exode personnel, ta sortie d'Égypte, ta Pâque, où tu célèbres Jésus, le nouveau Messie, ton intercesseur, et on le verra dans la Sainte Cène. Quelques paroles pour la route, car si la série sur l'exode se termine, le chemin de la vie chrétienne continue. Bon voyage. Amen.